France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui un raid en automobile qui a passionné les Français dans les années 1930, la croisière jaune. J'écris la route des ruines, la route des conquêtes, la route de la soie, celle de la muraille de Chine, celle de Marco Polo. Louis Audouin Dubreuil, chef adjoint de la croisière jaune. Deux mille ans d'histoire. Il s'appelait Georges-Marie Hart, Louis Audouin Dubreuil et Victor Point. Et dans les années 30, sur les traces de Marco Polo, ils ont fait rêver le monde entier en réalisant ce qui, à l'époque, était un exploit. La traversée de l'Asie en voiture. Un défi lancé 2 ans et demi plus tôt par le premier constructeur de voitures en série en France, André Citroën, qui avait aussi le sens de la publicité. Après avoir inscrit son nom sur la Tour Eiffel, il s'était lancé dans des projets insensés pour l'époque, les premiers grands raids automobiles à travers les continents. Une expédition à travers le Sahara en 1923 et un an plus tard, la célèbre croisière noire qui a traversé l'Afrique de l'Algérie à Madagascar. Mais de tous les grands défis de Citroën, le plus risqué fut sans doute ce grand raid automobile de 12 000 km qui devait atteindre Pékin en partant de Beyrouth en 1931, la croisière jaune.
4 avril 1931. Monté sur les tours du château des Crates, construit au temps des croisades par Godefroy de Bouillon, les Syriens s'émerveillaient de voir partir vers l'inconnu de modernes pieds encore venus de France. Le dernier salut de la patrie.
Ariane Audouin-Dubreuil, bonjour.
Bonjour, monsieur Gélinet.
Vous venez d'écrire chez Glénat un livre sur la croisière jaune dont votre père, Louis Audouin-Dubreuil, était un des organisateurs. C'était le chef adjoint de cette expédition. Alors, qui ne ferait pas sans doute la une des journaux aujourd'hui, avec les voitures dont on dispose, avec les routes, etc. Mais qui, à l'époque, était véritablement un exploit pratiquement inédit.
C'était tout à fait inédit et c'était une très grande aventure, effectivement, que d'aller à Beyrouth jusqu'à Pékin, à travers des pays en grosse difficulté et puis à travers la montagne, je crois que nous en parlerons.
L'Himalaya, le froid du désert,
voilà,
de
le
Gobi,
Karakorum,
moins 30 degrés, hein, pour des voitures de l'époque, c'était pas rien. Et puis alors, organisé par un homme qui avait, je l'ai dit, le sens de la publicité, qui n'en était pas déjà à son premier coup de pub. Alors c'est lui qui avait illuminé Paris, ou plutôt la Tour Eiffel, en y mettant son nom, je crois que c'était la première grande pub d'époque. C'était vraiment un homme assez moderne sur ce plan-là, pas seulement un grand industriel, mais un homme de publicité.
Il était le premier déjà à créer, dès 1920, une voiture clé en main et abordable à des prix tout à fait raisonnables. Ça, c'était vraiment peut-être la première grande publicité automobile de la voiture en série. Et puis, effectivement, il a créé la publicité moderne avec une conception tout à fait extraordinaire des lancements, en faisant participer même la population à certaines de ces organisations et de ces grandes aventures, notamment la croisière jaune, qui était très suivie.
Il faut que ça marchait, parce que j'ai sous les yeux les chiffres des voitures Citroën. En 1920, il y a 2500 Citroën qui roulent en France. Ça, c'était avant la croisière jaune et même la croisière noire. Juste après la croisière noire, en 26, 190 000 véhicules. En 28, 350 000. C'est assez extraordinaire de ce point de vue-là. Donc la construction en série, il était une espèce de Ford français, en quelque sorte. Et puis alors, ces grands coups de pub aussi que représentait la traversée du Sahara. Alors là, avec un projet un peu délirant, il appelait ça, enfin je ne sais pas comment il appelait ça, mais c'était une expédition qui était destinée au fond à permettre aux riches français d'aller dans le Sahara. Il a même fait construire des hôtels en plein désert.
Oui, alors les choses ont évolué au fur et à mesure des missions. Il est certain que la première traversée du Sahara, c'est la première fois qu'on traversait en voie voiture le Sahara de Tougourt à Tombouctou. Ça a été un événement extraordinaire. Il s'agissait de créer des routes et des voies aériennes pour pouvoir relier l'Afrique du Nord à l'Afrique centrale qui était très, très isolée et qui, évidemment, avait beaucoup de difficultés à être développée.
Et puis alors, il y a eu, alors plus extraordinaire encore, la croisière noire.
Alors la croisière noire était encore plus ambitieuse,
jusqu'à Madagascar, oui.
Parce que c'était une mission à la fois scientifique, humanitaire, culturelle et économique.
Et puis alors, il y aura aussi donc, la croisière jaune dont nous allons parler. Ce n'était pas seulement un coup de pub, hein, c'était une expédition qui se voulait scientifique, Ariane Audouin-Dureuil.
Alors, elle était scientifique et elle était en même temps soutenue par les ministères. Ministère de la Culture, ministère de l'Éducation nationale. C'était une mission scientifique et culturelle, vraiment dans la pleine acceptation du terme.
Il y avait même un journaliste de National Geographic hein, qui était présent.
Dans un très grand reporter, qui était M. Menard Howell Williams, qui était rattaché à la Société de Géographie de Washington, et qui sponsorisait, si on peut dire, la mission Citroën en offrant le reporter pour cette mission.
Puis des savants, un archéologue, un géologue, un peintre.
Alors,
aussi,
vous aviez M. Akin, qui oui. était conservateur du musée Guimet, président de la DAFA, qui travaillait sur les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. Et vous aviez également Teilhard de Chardin, qui était géologue, mais il y avait aussi l'historiographe, il y avait le cinéaste, ce qui était tout à fait exceptionnel, également un naturaliste du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.
Tous membres d'une expédition qui partait donc de Beyrouth en 1931.
Une réunion de savants, d'ingénieurs, d'artistes ira de Beyrouth à Pékin, à travers la mystérieuse Asie centrale, et reviendra vers la France par l'Indochine, le Siam, les Indes, la Perse. Ce sera l'expédition Citroën Centrasie, troisième mission Art Audouin-Dubreuil, la croisière jaune.
Dans le ciel noir, quel est ce nom qui brille, qui de Paris fait clignoter les yeux, qui éclaire tout, de l'étoile à la Bastille, ce sacré nom plus grand que le nom de Dieu, c'est Citroën, Dieu de l'automobile, Dieu de Javel, de Vichy, de Deauville. Saint Citroën, vous le puissant qui pouvez tout. Saint Citroën, priez pour nous.
Saint Citron, priez pour nous. C'est une chanson de Gabriello dans les années 30. Ah, vraiment, c'est extraordinaire, la popularité de Citroën. Enfin, il l'entretenait lui-même. Et notamment avec cette croisière jaune à laquelle, en compte tenu des difficultés, pour laquelle on a fait rouler ou on a construit des voitures qui n'étaient pas les voitures de tout le monde. C'était des autochenilles, hein, des Kegres, je crois. Les...
Alors, c'était, oui, effectivement, Kegres et Instinct. Un Kegres ayant inventé la chenille, d'ailleurs pour l'empereur de Russie, le tsar de Russie, sur la neige. D'abord, elles ont servi sur la neige, et puis il y a eu la Révolution, il est revenu en France. Monsieur Kegres était né à Belfort, et là, eh bien, il a exploité ce brevet avec Monsieur Instinct.
Alors, les difficultés ne sont pas purement techniques, elles sont aussi... politique. On va traverser des pays qui sont soit très fermés, comme l'URSS, soit en pleine anarchie. L'URSS, d'ailleurs, il a été question, ils ne sont pas passés justement par l'URSS, mais il a été question, le trajet initial devait passer par l'URSS.
Justement, il y a eu une nouvelle voiture extrêmement légère qui a été construite 3 mois avant le départ, au moment où la Russie a annulé les passeports. Ils devaient passer par le Turkestan russe, et ils seront obligés de passer par le Turkestan chinois. Alors effectivement, il y avait beaucoup de problèmes dans tous les pays traversés, notamment en Iran. Ils étaient juste au lendemain d'une grande révolution, avec la destitution des Qadjars, les Pahlavis reprenant le trône. En Afghanistan, c'était la révolution permanente. Il y avait un soulèvement chez les Ouzbeks, si bien qu'effectivement la mission devra infléchir vers le sud 1500 km de plus pour pouvoir... Bon, le fait que les passeports aient été retirés, ils n'ont pas pu passer par la Russie. Ils doivent passer par l'Himalaya, le Karakorum, les hautes passes des Pamirs pour enfin arriver à Kashgar. Donc tout ça était très compliqué. D'autre part, depuis 1911, depuis l'instauration de la République en Chine, c'était l'anarchie totale. Le Xinjiang, il y avait le soulèvement musulman au Xinjiang, et puis les puissants guerriers chinois, princes et autres, Sun Yat-sen d'un côté, Mao qui commençait le combat de l'autre, c'était effrayant de traverser effectivement la Chine.
Alors c'est effrayant surtout pour un autre groupe, parce que là, la croisière jaune, on pense à cette expédition partie de Beyrouth jusqu'à Pékin, mais en sens inverse, partant de Pékin pour rejoindre la plus importante des expéditions, il y avait ce qu'on appelait le groupe Chine, dans lequel se trouvait d'ailleurs Teilhard de Chardin, qui devait partir de Pékin et puis rejoindre le groupe Hart Audouin Dubreuil, votre père, au pied de l'Himalaya, le 14 juillet 1931, ce qui était prévu. Donc il y avait aussi un groupe qui venait à la rencontre du groupe principal, Ariane Audouin Dubreuil.
Alors, ce groupe avait été constitué pour assurer la réussite du voyage. Parce que lorsque les passeports ont été supprimés, les voitures lourdes scientifiques ont été envoyées à Pékin. Victor Point a pris la direction, il avait préparé la mission, a pris la direction de ce groupe qui allait effectivement de Pékin sur Kashgar pour pouvoir, mon Dieu, sauver la mise. Et pour eux, ça a été terrible parce qu'effectivement, ils ont traversé des champs de bataille extraordinaires et le père Teilhard de Chardin, qui avait été brancardier en 14, eh bien, si je puis dire, a rempilé. Voilà.
Parlons d'abord de l'expédition qui vient de Beyrouth jusqu'à Pékin, qui vient de l'ouest et qui va vers l'est, et donc qui quitte le Liban, Beyrouth. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le Liban était une colonie française, un mandat français,
protectorat,
mais en tout cas, disons une colonie. Donc, il quitte Beyrouth le 4 avril 1931, vers Damas, Bagdad, Téhéran, Kaboul. Ils vont voir les Bouddhas de Bamiyan, qu'on voit d'ailleurs en photo dans votre livre,
mais
oui, qui ont disparu. Alors, il y a le Cachemire aussi, ils arrivent à Srinagar, où l'expédition arrive donc 3 mois après son départ, le 24 juin 1931, au pied de l'obstacle le plus difficile, l'Himalaya.
Après avoir parcouru 6000 km à travers la Syrie, l'Irak, la Perse, l'Afghanistan, le pays de Cachemire, l'expédition Citroën Centre-Asie atteignait à Srinagar le pied de l'obstacle que pour la première fois, des hommes allaient tenter de franchir au moyen de l'automobile. Kashgar, où le groupe Hart devait rejoindre le groupe Chine, n'était plus qu'à 1000 km à vol d'oiseau. Mais les oiseaux ne franchissent pas l'Himalaya et le toit du monde n'a pas encore livré le secret de ces neiges éternelles. Ayant mis 5 jours à parcourir 100 km, la mission atteignit enfin un village, sans doute le plus haut du monde, puisqu'il se trouve à 3250 mètres d'altitude. Dans ces tanières vit une humanité lamentable et si farouche qu'il fallut la filmer au téléobjectif comme un troupeau de bêtes sauvages.
Et c'était un extrait du film La Croisière jaune qui était tourné par les membres de l'expédition en 1931, c'est-à-dire qu'on peut dire que c'est un des tout premiers documentaires parlant de l'histoire.
Alors, nommons le cinéaste qui était Monsieur Sauvage, qui était un très grand cinéaste de l'époque et qui, effectivement, a tourné un très beau document.
Avec des commentaires de l'historiographe de l'exposition qui était chargé de raconter l'histoire,
oui,
qui était Georges Lefebvre. Alors, là, on vient d'entendre le passage au moment où il traverse l'Himalaya. Ça, c'est vraiment l'épreuve suprême. Aucune voiture, jamais dans l'histoire, n'a jamais traversé l'Himalaya.
Alors, ils ont traversé effectivement les derniers contreforts de l'Himalaya, ce qui a été pour l'époque un record extraordinaire. Mais ils ont dû s'arrêter, hélas, à Gilgit. Ça a été un exploit sur 30 jours, au-delà des possibilités des forces humaines. Ils ont tenté cette escalade avec 2 voitures seulement, surallégées. Et vraiment, il fallait faire sauter des rochers partout, il fallait colmater la falaise qui s'émiettait. Il y avait des failles dues au tremblement de terre. Ils ont dû même démonter les 2 voitures à 2 reprises pour les passer sur plusieurs centaines de kilomètres à dos d'homme, 30 kilos par homme, pour pouvoir passer ces failles. Ça a été vraiment l'enfer.
Il y a une photo saisissante où on voit justement une de ces auto-chenilles qui se trouve sur un sentier qui est presque plus étroit que la voiture elle-même et le sentier qui s'écroule sous elle alors qu'il y a 30 voilà. mètres ou 40 mètres en dessous.
Alors le mécanicien Cessillon, évidemment, a gardé un souvenir d'horreur. Il restait des heures en suspens avec ses amis, un ami qui faisait contrepoids de l'autre côté de la voiture contre la paroi de la falaise, le gouffre à 30 mètres avec le torrent et la voiture prête à basculer. Donc millimètre par millimètre, ils ont été tirés par des filins pour pouvoir dégager cette voiture. Et ensuite, il a bien fallu continuer. Donc, on a reconstitué la falaise pour repartir. C'était effrayant.
Sans compter les fleuves, les rivières. Je crois que votre père en avait compté 45 à traverser.
Voilà. Alors là, c'était peut-être le moins dur, si on peut dire.
Et dans des paysages avec des populations.
Et vous savez, en ayant faim, parce qu'il n'avait pas de possibilité de ravitaillement, c'était un sentier muletier où on ne pouvait pas se croiser. Donc, on montait, on espérait arriver enfin chez le Mir de Hunza, par exemple, au royaume de Hunza.
Mais comment est-ce qu'ils ravitaillaient, par exemple, aussi des voitures? Enfin, quand même, ils ont fait 12 000 kilomètres, je suppose qu'il y avait besoin d'essence et qu'ils n'ont pas fait le plein à Beyrouth pour
Alors,
arriver.
Alors, disons que de Beyrouth jusqu'au pied des Pamirs, ça avait été assuré. Ensuite, eh bien, il y avait eu des dépôts constitués. Et justement, pour traverser la Chine, il y avait eu des dépôts constitués avec 22 caravanes de chameaux pendant 2 ans, qui ont été de Pékin jusqu'au cœur du Gobi, du Xinjiang, du Taklamakan, faire des dépôts d'essence, d'huile et de vivres, qui leur ont d'ailleurs sauvé l'existence. Nous verrons, en retraversant la Chine, ça a été également un combat de tous les jours.
Alors avant de traverser la Chine, ils traversent l'Himalaya, passent aux côtés des plus grands sommets de l'Himalaya, et sans avoir de nouvelles du groupe Chine, celui qui vient de Pékin, qui vient de l'Est, et qu'ils devaient retrouver à Kashgar, en Chine, après avoir franchi l'Himalaya, le 14 juillet 1931.
Sous la garde des géants du monde. Le Rakaposhi, 7800 mètres. Le Nanga Parbat, 8860 mètres. La planche, à l'écoute, attendait toujours sans grand espoir des nouvelles du groupe Chine.
Il me manque des mots, j'entendais très mal.
Léga France, Pékin.
Il appelait la Légation de France ?
Prière intervenue et été personnellement retenu prisonnier. Jour, gouverneur réquisitionne voiture. Sommes immobilisés au Rumchi, Victor-Point.
Un Français de bonne mine rapportait de son voyage en Chine 1000 souvenirs très précieux sur le langage étrange de ses fils des cieux. Il paraît qu'un jour de fête, il alla muni d'un interprète présenter ses voeux à trois mandarins avec lesquels il voulait bavarder un brin. Ding-ling-ling, fou-tché-ou, sé-chouen et pé-chili, pan-ké-ou, ping-e-pong, wing-e-wong, e-ho-wan-po, ou-tché-ou, tsin-ta-ou, ou-tché-ou, tsin-ta-ou, et sing-e-pao, ting-e-sou-tché-ou, pé-fou, et toc, un point, c'est tout.
Et c'était Révin Duras, trois mandarins. C'était chanté dans les années 30 par ce groupe très célèbre de l'époque. Et à l'époque où la croisière jaune arrivait en Chine, après avoir franchi l'Himalaya, en réalité c'est en Chine qu'elle a eu le plus de difficultés. Non pas le groupe qui vient de Beyrouth, mais celui qui venait de Pékin. C'est le groupe Point, le groupe Chine, Ariane Audin-Dubreuil, qui a eu des difficultés. Et non pas à cause des mandarins, mais à cause des seigneurs de la guerre, en tout cas de l'un d'entre eux, le maréchal King.
Alors, le gouverneur général King, effectivement, régnait sur le Xinjiang.
C'est-à-dire toute la partie orientale de...
Toute la partie...
Occidentale, pardon.
Occidentale de la Chine.
Le désert, quoi. Ouais.
Donc, un véritable royaume pour lui. Effectivement, alors, il a su que Point arrivait avec son groupe depuis Pékin. Il y avait à leur bord des scientifiques chinois avec lesquels ils se sont brouillés. Ça s'est très, très mal passé. En fait, ils étaient sous haute surveillance à travers toute la Chine. Il les a convoqués. Il a convoqué Victor Point à Urumqi. Et là, eh bien, ils se sont retrouvés prisonniers à Urumqi. Ils avaient eu le temps, je le tiens à noter, de garer leurs armes à feu, parce qu'ils étaient très armés, dans la montagne avant de se rendre. Et là, ils ont attendu le groupe Art au loin du Breuil pendant des mois sous surveillance. Interdiction de sortir d'un certain périmètre.
En fait, ce que voulait ce maréchal King, c'était tout simplement leur piquer leurs voitures.
Il voulait les voitures et surtout la TSF. Comme il combattait et qu'il avait ses propres armées, il voulait la TSF pour pouvoir être opérationnel sur le front.
Et ça a duré combien de temps? Alors, ils ont été prisonniers en quelque sorte.
Bien, ils ont été prisonniers du printemps 1931 à l'automne, jusqu'au 20 novembre environ, date à laquelle le premier groupe a pu partir sur des recherches dans les oasis du Tarim.
Et c'est donc avec 3 mois de retard que finalement le groupe Chine, justement le groupe Point, et le groupe Pamir, celui de votre père et celui de Hart, eh bien, se sont retrouvés à Urumqi le 29 octobre 1931.
Maintenant, quand on s'est retrouvé, on se quitte plus.
Tous présents, sauf celui dont le nom était dans toutes les pensées et à qui Hart eut l'idée d'envoyer un message vivant.
Mon cher Citroën, vous êtes devant nous. Tout va bien chez vous? Chez nous aussi. Vous me regardez? Je suis en costume gobi. Car nous allons traverser un désert où l'hiver est le plus rigoureux du monde.
Tientsin, Kalgan, la Mongolie, le désert de Gobi, le Xinjiang.
Et nous continuons sous votre signe, mon cher Citroën. Mais vous êtes si loin de nous. Et ces images iront si lentement pour faire le tour de la Terre que le moment est venu pour nous de vous adresser nos voeux pour 1932 et parmi ceux-ci, celui de nous retrouver ensemble avec vous au bout de ce prodigieux voyage que vous animez. À bientôt, mon cher Citroën.
Extraordinaire, hein, ce message. Ariane
oui, alors ce message, d'ailleurs, c'est une partie du film. C'est tiré du film et effectivement, c'était les vœux. Et ils étaient là, sur les bords du fleuve jaune. D'ailleurs, en costume mongol, mourant de froid par moins 30.
Quand vous dites « il », il y avait Hart, il y avait Point, il y avait votre père aussi.
Voilà, les trois qui prennent la parole à tour de rôle, effectivement.
Et qui s'adresse à Citroën, qui lui a des milliers de kilomètres de là, à Paris.
Oui.
Alors évidemment, bon, je dis extraordinaire aujourd'hui, ça paraîtrait, avec le téléphone satellitaire, ça paraîtrait simple.
Ils étaient chargés par SFR d'une recherche sur les ondes à moyenne et à longue portée. Et pendant toute la mission, ils ont pu être en contact entre les deux groupes. Il passait un message qui était capté en mer de Chine, répercuté à Point. Point envoyait, c'était répercuté sur Paris et jusqu'en Amérique. Si bien que le monde entier pouvait suivre sur des petites cartes qu'avait préparées Citroën, encore un coup de pub, les cartes qui étaient sur l'exposition universelle qui avait lieu au même moment, eh bien, on pouvait pointer des petits drapeaux pour voir l'avancée de la mission.
Et là, alors, le message qu'on vient d'entendre, il était envoyé à 3000 km à l'ouest de Pékin, en plein désert du Xinjiang, avec encore une épreuve considérable à passer. C'était le désert de Gobi. Là, il y avait des températures, dans les mémoires de votre père, moins 30 degrés. Oui. Enfin, c'était
et pourtant,
hallucinant.
Vous savez, ils ont poursuivi même des recherches à Tourfan, sur ces sites archéologiques absolument extraordinaires, les oasis mortes du désert de Gobi. Et là, ils ont travaillé par moins 10 degrés. Le peintre Yakovlev, qui faisait partie de l'expédition, a relevé les fresques en peinture à la détrempe. Et le père Teilhard de Chardin, eh bien, lui, géologue, étudiait les terrains de la Chine et a pu établir la première carte de géologie dynamique de la Chine. Donc, comme disait Citroën, la voiture au service de la science et de la culture.
Et puis ils arrivent à Pékin le 12 février 1932, hein, après 1215, pour être précis, 1215 kilomètres de trajet, 10 mois et 10 jours ou 8 jours de voyage. En principe, ce n'était pas la fin du voyage, ils devaient continuer pour revenir en fait à Beyrouth et même en France, par le Vietnam, qui était une colonie française à l'époque, même par l'Inde.
Alors, l'Indochine, qu'on disait française à l'époque, l'Indochine française, ils ont là poursuivi des recherches effectivement archéologiques, artistiques et scientifiques et économiques. Ils sont rentrés, mais comme vous le savez, le chef de l'expédition est mort le 16 mars à Hong Kong, alors que justement il allait remercier la flotte française en mer de Chine pour son relais TSF. Et il est mort, hélas, d'une bronchopneumonie que l'on ne pouvait pas soigner à l'époque. Il n'y avait pas d'antibiotiques, il faut le rappeler. Les conditions physiques, on était en danger bien, bien souvent.
On a parlé de malédiction de cette expédition. En fait, il n'y a pas eu un mort. Il y a eu Hart qui est mort après l'arrivée à Pékin. Il y aura également Point qui va se suicider, hein, pour des raisons sentimentales. Mais en août
suivant... Mon père disait qu'il avait perdu la face en Chine en étant prisonnier. Et c'était un homme fatigué.
Et puis, alors, il y a Citroën aussi. D'abord, est-ce qu'il y a eu... Quel était le bilan scientifique, puisque c'était une expédition scientifique de cette croisière jaune?
Écoutez, des collections pour le musée Guimet, des collections pour le Muséum d'Histoire Naturelle, des collections pour le Musée du Trocadéro. Ça a été vraiment une mission qui a été, et puis scientifique, puisqu'il y a eu les travaux du père Teilhard de Chardin également, et les travaux de Hacquin.
Et puis alors, on attend évidemment des retombées commerciales. Alors ça, c'est pathétique. Citroën, qui a englouti des fortunes pour faire tout ça, eh bien Citroën, finalement, va mourir 3 ans plus tard, ruiné. C'est assez triste parce qu'on a l'impression qu'au fond, tout ça n'a servi à rien. Si c'était un coup de pub, en tout cas, il a été raté, contrairement au précédent Ariane Audouin-Dubreuil.
Alors, coup de pub, écoutez, moi, je ne sais pas. Je crois tout de même que c'était le renom de Citroën, qu'on en parle encore, et que si la mission, moi je dis toujours, croisière jaune, garde encore tout son éclat après des dizaines et des dizaines d'années, 78 ans si je ne me trompe pas, eh bien c'est que c'était une mission qui avait autre chose que l'espoir sportif qui était remarquable, que l'endurance qui était fabuleuse. Il y avait justement cette dimension, être utile, apporter quelque chose.
Mais pour Citroën, il n'a pas tiré un grand profit. Alors que c'est un homme qui invente une des voitures les plus célèbres du XXe siècle, qui était vraiment très en avance sur son temps, la fameuse traction avant.
Elle était dans les cartons.
Au début, elle est mal accueillie. Et puis, c'est peut-être un peu de ça aussi que Citroën est mort. Il est mort en 35, assez jeune, à 57 ans.
Il est mort d'une longue maladie. Oui. Il était très malade. Il est mort en 35, effectivement. Il a été hospitalisé très peu de temps après avoir cédé son entreprise à Michelin, vis-à-vis desquels il était très endetté, il faut bien le reconnaître.
Est-ce qu'on peut faire des comparaisons entre cette croisière jaune? D'ailleurs, on ne l'a appelé comme ça que plus tard. C'était bien la mission Citroën Centrasie.
C'était une erreur. On l'a tout de suite nommée croisière jaune. Et pour mon père, c'était une erreur considérable, car on n'allait pas à la conquête de l'Asie. On faisait une mission scientifique et culturelle.
Est-ce qu'on peut la comparer au Grand Raid d'aujourd'hui, au Paris-Dakar, par exemple?
Écoutez, ce n'est pas dans le même esprit. Au point de vue aventure, découverte, endurance, oui. Mais au point de vue recherche, ethnographique, géographique, géologique, archéologique, non. C'était une course de fond, alors que ce sont des raids très rapides maintenant. Le Paris-Dakar, moi j'admire beaucoup, évidemment, c'est très grand sportif, mais je dirais alors, c'est encore plus sportif, voilà.
C'était une émission du 17 octobre 2007. Je signale que mon invité Ariane Audouin-Dubreuil est l'auteur de La Croisière jaune sur la route de la soie, réédité et complété de documents inédits aux éditions Glénat, Société de géographie, dans la nouvelle collection La Bibliothèque des Explorateurs, un livre récompensé en 2003 par le Grand Prix Jules Verne. Elle est également l'auteur du récit de La Croisière noire aux éditions Glénat, toujours dans la même collection La Bibliothèque des Explorateurs. À lire aussi « Regard sur la croisière jaune » de Patrick Gourlet, le témoignage de Charles Leroux, le conducteur mécanicien du groupe Pamir, publié aux éditions Skolvreis. Vous avez pu entendre des extraits de « La croisière jaune », film documentaire d'André Sauvage, filmé en 1931 depuis l'expédition et qui nous a été gentiment prêté par le service de communication de PSA Peugeot Citroën. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Julien Dumont et Fabrice Desmaz. Documentation et archives sonores, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Sophie Gillery et Stéphanie Leroy de la discothèque de Radio France que nous remercions tout particulièrement. Une réalisation de Anne Kobilac.